Nous avons partagé la parole sur la résurrection. Et nous avons parlé de ce personnage incroyable, Marie de Magdala, qui a rencontré les deux anges, mais aussi Jésus ressuscité. Elle a vu le tombeau vide et elle a eu l'ordre par Jésus lui-même d'annoncer justement que Jésus est ressuscité. Jésus apparaît ensuite miraculeusement devant ses disciples le soir même, alors qu'ils étaient, comme avait dit Francky, alors qu'ils étaient enfermés dans une maison à double tour, de peur d'être persécutés par les chefs religieux, par les juifs. Et je me suis dit, bon, on va continuer l'histoire, hein. Et donc on va prendre dans le même chapitre, chapitre 20, Jean, chapitre 20, à partir de verset 24 jusqu'au verset 29. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors de la première rencontre Jésus avec les autres disciples, il n'y en avait que 10. Pourquoi? Parce que Judas n'était pas là, n'est-ce pas? Mais aussi Thomas n'était pas là non plus. Pourquoi? Ça, la Bible ne nous indique pas pourquoi il était absent. Mais en tout cas, voilà, c'est suite à cette histoire que nous allons lire. Je vous lis. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Jusqu'ici notre lecture. À travers cette lecture, ce que nous pouvons comprendre, c'est que, à mon avis, les disciples ont dû lui raconter que voilà, le Seigneur est, on a rencontré le Seigneur. Et ils ont peut-être, c'est vrai que Thomas était sceptique. Du coup, ils ont peut-être raconté que oui, nous avons vu ce Jésus ressuscité avec les traces, des clous, etc., etc. Mais il a dit que si je ne vois pas, si je ne vois dans mes yeux la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. C'était quelqu'un vraiment sceptique, Thomas. Thomas ne pouvait pas croire toute cette histoire sans preuve, car il fallait qu'il expérimente par lui-même pour croire. Et donc, après 8 jours après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus réapparaît devant ses disciples et cette fois-ci, Thomas était présent. Alors Jésus dit à Thomas, Avance ici ton doigt, comme s'il avait déjà entendu ce que Thomas avait dit entre les disciples. Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Voilà, Jésus apporte la réponse aux interrogations de Thomas qu'il avait lors de sa discussion avec les autres disciples. Oui, je pense que Jésus, après la résurrection, il s'était limité à une certaine puissance, et là, après la résurrection, il n'y avait plus de limite. Il connaissait tout, parce qu'il était Dieu lui-même. Donc Jésus est en train de dire, Regarde mes mains, mes pieds, et dans mon côté, si tu as besoin de preuves, les voici, regarde-les, touche-les. La conclusion de toutes ces preuves, de cette apparition, c'est que ne sois pas incrédule, mais crois. Est-ce que vous êtes sceptique? Oui? Oui. Non. Non. Parfois. Oui, parfois. Ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend des personnes. Si c'est une personne de confiance, on peut croire. Si c'est une personne qui vient vendre leurs produits, là, c'est... il vaut mieux se méfier. D'ailleurs, j'ai arrêté, ou plutôt, j'ai enlevé mon téléphone fixe, tellement il y a eu de téléphones, des coups de téléphone pour me vendre des choses. Alors, j'ai dit, oh non, ça suffit là maintenant, j'utiliserai que mon portable. Mais quoi? Vous savez quoi? Même sur mon portable, il y a des gens qui... Je ne sais pas comment ils font pour avoir mon numéro de téléphone, mais voilà. Du coup, le monde nous incite à se méfier de tout. Le monde nous, voilà, nous invite vraiment à se méfier de tout. Quand Jésus a dit, bah, touche, touche et crois, Thomas devait se sentir un peu désolé parce que, ah, je me suis fait découvert. Il a tout entendu. Et qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il fait? Il répond ainsi, mon Seigneur, mon Dieu. Il fait une confession de foi. Oui, je reconnais que tu es mon Seigneur. Oui, je reconnais que tu es ressuscité. Oui, je reconnais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus devait être content de cette confession. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qui ont cru. Voilà. Jusqu'ici, un peu notre histoire. Alors, ce serait quand même intéressant de voir qui est ce personnage, Thomas. Thomas était donc un des 12 disciples. Et on voit apparaître souvent, par exemple, dans Jean, chapitre 11, il est dit, Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Je vous explique un petit peu le contexte. Cet épisode apparaît lorsque Lazare était malade. Vous savez, Jésus était très proche avec Marthe, Marie et Lazare, les trois membres de famille. Et il apprend que, voilà, que Lazare est malade au point de mourir. Et il s'est dit, moi je vais retarder encore 2 jours, hein, je ne vais pas aller tout de suite, hein, parce que je sais que je vais, hein, dans son intérieur, il savait qu'il allait montrer la puissance glorieuse de Dieu, hein, par la guérison de Lazare. Et donc il s'attarde et il décide d'aller près de Judée, plus exactement à Béthanie, là où habitait Lazare. Et là, les disciples essayent de le dissuader. Pourquoi? Parce que les disciples savaient que les chefs religieux avaient décidé de le faire tuer, de le faire lapider. Donc, il y avait un réel danger. C'est pour ça que les disciples voulaient ne pas y aller. Or, ici, la confession de Thomas est quand même incroyable parce que Thomas a vu Jésus persister dans sa décision de retourner en Judée, et il dit, il prend courage et lui dit, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Pour mourir avec lui. Souvent, on considère Thomas l'incrédule, hein, celui qui est un peu moins bien que les autres disciples. Non, pas du tout. Regardez, ici, il était vraiment sincère, authentique, courageux, même prêt à mourir pour Jésus. On voit vraiment son amour pour Jésus. Bon, c'est vrai que par la suite, il s'est enfui quand Jésus s'est arrêté. Hein? Il n'a pas tenu parole. Dans Marc 14, 50, il est dit que alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent quand Jésus s'est fait arrêter. Mais quand même, il était sincère quand il a dit ça. Il désirait suivre Jésus, son maître, et en tout cas, avant sa régénérescence, il a quand même essayé de faire tout pour le suivre. Là, ce que nous pouvons comprendre, entre parenthèses, à travers cet événement, c'est que Certes, la bonne volonté est nécessaire pour suivre le Seigneur, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Même, je dirais, insuffisant. C'est pourquoi le Seigneur nous a accordé son Esprit Saint. Nous avons tout à l'heure prié que l'Esprit de Dieu nous accorde, oui. Nous avons besoin de Saint-Esprit dans la vie de ceux qui le recherchent assidûment. Voilà. En tout cas, à travers cet événement de Jean chapitre 11, on voit que Thomas était quelqu'un de courageux, sincère, même à un moment donné, prêt à mourir pour Jésus. Mais même s'il n'avait pas tenu la parole. Et puis, quelques épisodes plus tard, quelques chapitres plus tard, dans Jean 14, nous voyons encore Thomas agir, apparaître dans cette histoire. Voilà, Jésus prêche. Dans chapitre 13, Jésus prêche devant tout le monde, devant beaucoup de disciples, et il prêche que, bien sûr, de la vie éternelle, mais aussi qu'il allait mourir, qu'il doit mourir. Les gens ne comprennent pas. Mais en tout cas, Jésus veut apporter à ses disciples qui sont un peu dans une confusion, apporter des paroles d'encouragement. Alors il dit, voilà, soyez courageux, n'abandonnez pas. Et puis il dit, lorsque je m'en serai allé, donc c'est-à-dire qu'il va vraiment s'en aller, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Là, il fait une promesse de son retour. C'est-à-dire qu'il va mourir, il va aller auprès du Père, mais il reviendra un jour pour nous prendre. Et je vous prendrai avec moi afin que vous, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus raconte, voilà, c'est ce qui va se passer. Je vous ai raconté maintes fois ce que je vais faire. Je vais mourir, je vais ressusciter et je serai auprès du Père et je reviendrai vous chercher. Et là, encore une fois, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, nous, qui vivons actuellement au 21e siècle, nous qui avons reçu la foi, la grâce de Dieu, nous qui connaissons tout ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, c'est-à-dire il est mort, ressuscité et monté au ciel, il intercède pour nous. Lorsqu'il a dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin », on aurait dit devant cette phrase « Amen, Alléluia ». Non ? Si, avec la connaissance que nous avons, on aurait dit « Amen, Alléluia !» Oui, tu reviens, oui, Maranatha, viens, enfin, ce genre de choses. Hein? Mais Thomas, qui ne comprenait pas grand-chose à cette époque-là, hein, c'était un message un peu incompréhensible pour lui. C'était peut-être du charabia. Alors Thomas intervient. En fait, personne n'osait lui dire. Et Thomas, lui, qui est très carré, terre à terre, il intervient et il dit, mais non, on ne sait pas où tu vas. Personne lui posait la question. Et Thomas, lui, au lieu de dire amen, comme je ne sais pas, comme nous aurions dit, non, il dit, non, on ne sait pas où tu vas. Où est-ce que tu vas, on sait d'ailleurs. On voit bien que Thomas est quelqu'un très curieux. Très curieux. Et s'il ne comprend pas, il pose la question. D'ailleurs, dans les études, dans vos études, quand vous étiez étudiant, rappelez-vous, les gens qui posaient des questions, c'était des qui ? Des gens intelligents, non, quand même ? Qui connaissaient bien le sujet. C'est pour ça qu'ils pouvaient poser la question. Hein ? Quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'école théologique, il y avait toujours deux, trois qui posaient toujours la question. Il avait les mains toujours levées comme ça. Monsieur, professeur. Et il était un des meilleurs. Hein, c'est des gens curieux qui posent toujours plein de questions. Bah, Thomas était comme ça. Ce qui est incroyable, c'est que Jésus lui répond à toutes sortes de questions. Ce qui est super, c'est que quand dans Jean 14, il lui pose la question, mais je ne sais pas où tu vas, et là il répond cette célèbre phrase que nous connaissons par cœur, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. Cette phrase a été prononcée par Jésus, entre guillemets, grâce aussi à Thomas, qui a posé cette bonne question, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Je pense que Dieu ne se refuse pas de recevoir des questions. Si vous avez des incompréhensions sur un certain sujet, bah, il faut poser la question. Mettons-nous en prière pour dire, Seigneur, pourquoi? Vous savez que nos enfants, lorsqu'ils grandissent, vous entendez beaucoup ce « pourquoi ?»« Maman, mais pourquoi ? Papa, mais pourquoi ?» ça fait, hein? Pourquoi on ne doit pas toucher? Pourquoi on ne doit pas sortir dès telle ou telle heure, etc. Pourquoi je dois dormir maintenant, hein? J'aimerais regarder un peu de, hein, de films. Il y a beaucoup de pourquoi, souvent, quand ils sont petits. Mais une fois qu'ils ont compris, voilà, c'est pourquoi ils disparaissent. Et puis, ils acquièrent une certaine connaissance, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu veut aussi à notre égard. Si nous avons des questions, il faudrait lui poser la question. Et ce qui est formidable, c'est que nous avons un grand Dieu d'amour, compatissant, mais aussi, il est très compréhensible avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il se met à notre niveau. C'est un très bon pédagogue. Avec les érudits, il répond de manière assez érudite. Avec des gens un peu plus simples comme moi, il répond de manière assez simple. Voilà. Hein? C'est un très bon pédagogue. Donc, n'hésitons pas à lui poser la question. N'hésitons pas à se mettre d'abord en prière pour recevoir plein de réponses qui viennent de notre Seigneur. Je vous avoue, je suis un peu comme Thomas, c'est-à-dire sceptique. J'étais vraiment sceptique. Et même au niveau de la foi aussi, j'étais très sceptique. Quand j'étais jeune, j'entendais plein de témoignages des gens qui disaient que voilà, j'ai été guéri, j'ai été, etc. J'ai reçu plein de témoignages et je restais toujours méfiant. Je me suis dit toujours que bah, c'est la médecine. Le gars, il était à l'hôpital, donc c'est normal qu'il soit guéri. Ou parce qu'il a pris des médicaments, donc c'est normal qu'il soit guéri. Les médicaments sont faits pour. Hein? Après, quand j'ai vu une certaine maladie être guérie, je me dis, bon ça, c'est, ça arrive. Hein? Ça arrive de temps en temps. Même chez les non-chrétiens, ça arrive aussi. Donc, voilà. Hein? C'est une probabilité. Mais toute cette méfiance s'est écroulée lorsque, vraiment, moi-même, j'ai été guéri spontanément. Une fois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yung Gisho. C'est un grand pasteur, apparemment. Enfin, apparemment, il était un grand pasteur, à l'époque en tout cas. Et qu'on avait mangé ensemble une fois à table. Il était juste à côté de moi. On discutait, puis j'étais enrhumé. Ce n'était pas une grande maladie, j'étais juste enrhumé. Je toussais beaucoup. Ah, tu tousses beaucoup? Oui, je suis malade, je suis enrhumé. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Oui, mais ce n'est pas la peine de prier, en fait, parce qu'il suffit de prendre des médicaments et je serai guéri dans quelques jours. Hein? Oh, mais je vais quand même prier pour toi. Là, tu n'as presque plus de voix. Hein? Et puis, on est allé dans la salle d'à côté pour prier. Et à l'instant même, j'ai jamais vu ça, à l'instant même, j'ai été guéri. Je me suis dit, mais waouh, ça existe. J'étais sceptique et depuis ce jour-là, je me suis dit, mais Seigneur fait des choses incroyables. Et par la suite, j'ai vu tellement de guérisons. Les gens marchaient devant moi, des gens qui, voilà, être sortis de leur coma, des gens qui étaient délivrés, des gens qui sont guéris instantanément après la guérison. Après la prière d'imposition, je me dis, mais Seigneur, incroyable. J'étais sceptique et je suis devenu un vrai croyant des miracles parce que le Seigneur est vivant. Et celui qui a fait des miracles il y a plus de 2000 ans est le même hier, aujourd'hui, éternellement. il fait toujours ce même miracle, même aujourd'hui. Oui, la foi s'agrandit aussi avec les expériences, avec des questions que nous pouvons nous poser à Dieu lui-même. Alors, ce qui est intéressant encore dans cette histoire, au verset 27, « Mets ton doigt dans le trou de ma main, etc., etc. Mets ta main dans mon côté. » Et Saint Thomas, Thomas répond de suite, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Cela veut dire qu'il n'a pas touché, en fait. Il n'avait pas besoin de toucher pour croire. Quand il lui a montré « Vas-y, touche », il n'a peut-être pas osé, mais en tout cas, il n'a pas touché. Puis il a dit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Cet esprit sceptique a été transformé par la foi ancrée et il a fait une super confession. « Mon Seigneur, toi qui es mon maître, mon Dieu, tu n'es pas juste un simple homme, mais tu es Dieu, tu es Dieu. » C'est une confession incroyable. Dans la Bible, nous voyons beaucoup de personnages qui ont fait des confessions incroyables. Par exemple, Nathanaël, Jésus lui dit, Jésus appelle Nathanaël. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il a juste dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu de loin. Enfin, de loin, mais je te connaissais, j'ai pu voir. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Une super confession aussi. Juste, il a pas vécu de miracle. Le simple fait que Jésus connaissait tout ce que lui, il a fait, il a pu confesser ça. Pierre aussi, il a fait, après l'enseignement sur la vie éternelle, sur la mort, certains disciples, l'enseignement de Jésus était assez difficile, donc ils l'ont abandonné. Et alors, Jésus raconte aux 12 disciples, plutôt, en voyant les autres disciples s'en aller, il demande aussi, il pose la question aux 12 disciples, « Vous aussi, vous voulez m'abandonner ?» Et là, Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. » Le Saint de Dieu. Super confession aussi. Marthe aussi, après la guérison, enfin plutôt avant, elle dit aussi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Plusieurs personnes de la Bible ont confessé Jésus, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, le Christ, le Roi d'Israël, etc. Et puis, ici, Thomas fait une super confession, mon Seigneur, mon Dieu. Et je vous rappelle que à la première rencontre entre les disciples et Jésus, personne n'a fait ce genre de confession. Ils ont juste été, waouh, super. Celui qu'on avait cru mort, il est vivant, ressuscité, juste joyeux. Mais là, Thomas, lui, qui au départ semblait être incrédule, après avoir vu les preuves, il fait une super confession, incroyable. Mon Seigneur, mon Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu. Après, Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est vous et moi. Nous n'avons pas vu Jésus ressuscité, mais nous croyons. C'est vraiment la grâce de Dieu. Comment Dieu a fait pour que j'ai cette foi-là ancrée en moi? Je pense aussi à la parole de Dieu qui est que nous avons pu lire. Hein? La foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Dieu, à travers l'Esprit de Dieu, nous a inspirés et nous a permis d'avoir cette foi. Et nous sommes vraiment les heureux, d'après ce verset. Mais il dit aussi que, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans le personnage biblique, il y a encore une personne, enfin il y a plusieurs personnes, mais parmi d'autres, il y a ce personnage que j'aimerais vous présenter. C'est dans Jean 4 où nous voyons l'événement d'un officier du roi. Son fils était malade Alors, il vient voir Jésus en disant que, voilà, alors, je vous lis, hein, 4, 20, 46, il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Et là, Jésus répond, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut, il n'a pas vu la guérison. Quand Jésus a prononcé, « Va, ton fils vit. » Et cet homme, au départ, qui était insistant, il a cru avec cette parole prononcée par Jésus. Et il s'en alla. Ce qui est intéressant, dans quelques versets plus tard, le lendemain, il retourne chez lui et sur le chemin, il rencontre donc son serviteur qui vient lui annoncer que son fils est guéri. En lui posant la question... à quelle heure il a été guéri, elle a dit telle ou telle heure. Ah, c'est l'heure où Jésus a prononcé « Va, ton fils vit ». Donc, sa foi a été exaucée. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que entre le Capernaüm et tout ça, c'était une distance où il pouvait y accéder chez lui en demi-journée à pied. En demi-journée, il pouvait y aller. Mais il a attendu jusqu'à lendemain. Imaginez, si vous aviez un enfant qui était mourant et que quelqu'un a dit que voilà, ton fils va vivre, si vous avez vraiment, même si vous avez cru, la première chose, ce serait quand même de vouloir vérifier et courir tout de suite, voir le jour même. Mais il a attendu encore une journée. On voit vraiment qu'il avait la foi, il avait... la foi certitude que son fils était déjà vivant. Oui, il n'a pas vu, mais il a cru. Il a cru sans voir. Oui, sans voir. Il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de voir. Il y a des gens qui ont besoin d'épreuves. Ce qui est formidable, c'est que Dieu a agi selon notre personnage. Selon notre caractère. Ceux qui ont besoin d'encouragement, il encourage. Ceux qui croient sans voir, c'est super. Et puis, il les entoure aussi. Ouais. Je reviens encore à l'histoire de Thomas. Est-ce qu'il faudrait critiquer Thomas qui a été incrédule, ou, entre guillemets, ou qui a posé des questions? Non, bien sûr que non. Parce que si on regarde les personnages bibliques, il y a eu beaucoup de sceptiques. Quand les anges ont annoncé que Abraham allait avoir un enfant, hein, à l'âge de 100 ans, Sarah a ri derrière. Elle a ri, hein, pour dire que mais c'est pas possible, quoi. Elle était sceptique. Quand Moïse a été appelé par le Seigneur lui-même, il l'a vu Dieu lui-même à travers le buisson ardent. Et quand Dieu lui dit « Va, conduis mon peuple », il a dit « Mais non, je ne peux pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. » Dieu dit « Mais si, tu peux. » Dieu dit « Mais je suis avec toi, je peux, tu peux. » Et non, non, je ne peux pas. J'ai la parole. J'ai pas la parole facile. À Gédéon, c'est pareil. Quand il a été appelé par Dieu et qu'il serait juge, le conducteur du peuple, il a dit « Non, je suis le plus faible, je ne peux pas. » Ce n'était pas forcément de l'humilité. C'était même... voilà. Comme Paul... mais non, ça c'est... Bien des hommes et des femmes que Dieu a appelés pour des missions importantes ont réagi de cette manière-là, assez sceptique. Mais Dieu a fait preuve d'une grande patience envers chacun d'entre eux. De même, il est patient envers chacun d'entre nous. Dans notre foi, dans notre vie de foi, Il y a des moments et des hauts et des bas, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes un peu dans le bas, le Seigneur reste patient. Il nous donne des encouragements pour que nous puissions remonter encore de nouveau, de plus belle, pour être un peu plus dans la maturité. Qu'est-ce que je pourrais dire encore plus à travers cet événement? Lorsque nous passons à un moment de flottement, de difficulté, l'histoire de Thomas peut être un encouragement en tout cas. Que vraiment cette histoire nous invite à persévérer davantage dans notre foi. Et puis, si vous avez vraiment des questionnements ou encore des interrogations envers certaines choses, parce que nous pouvons être dans les interrogations, on peut se dire, mais pourquoi cette guerre en ce moment? Pourquoi cette guerre? Pourquoi autant de morts en ce moment? Pourquoi il y a cette tristesse? Pourquoi le Covid? Pourquoi la maladie? Pourquoi? Et on peut avoir beaucoup de pourquoi. Mais ce que nous pouvons faire, c'est que dans les moments de flottement, oui, posons nos questions à Dieu qui connaît toutes choses et qui a toute la puissance nécessaire pour régler toutes ces choses. Et ayons vraiment que notre confiance en lui grandisse davantage. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que tu es un Dieu qui connaît tout. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mort, ressuscité, tu es monté à la droite du Père et tu reviendras un jour. En attendant, tu nous invites à vivre en te faisant confiance. Si nous avons des questions comme Thomas, si nous avons peut-être des doutes, que tu fasses disparaître ces doutes par tes encouragements, par ta parole, par les événements. Seigneur, conduis-nous toutes choses. Ces incompréhensions, ces choses, ces événements incompréhensibles, je sais que tout à la fin, tu feras toujours le reste, ce qui est le plus juste. Et aide-nous vraiment à avoir cette confiance en toi. À travers aussi le message d'aujourd'hui, à un moment donné, Thomas était aussi tout feu, tout flamme pour toi. Même il était prêt à mourir. Mais lorsque le Saint-Esprit n'était pas avec lui, avec ses propres efforts, avec sa propre justice, il ne pouvait pas te suivre pleinement. C'est seulement après le Saint-Esprit, la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu s'est manifesté abondamment, que il a pu vraiment te suivre aussi, Seigneur. De même, oui, Seigneur, nous avons besoin d'être remplis par toi pour mieux te suivre. Sois avec nous tous. C'est au bon nom de Jésus que nous te prions. Amen.